allô, allô tout le monde! Ici Louise Curado et je vous souhaite bienvenue à Trait d'Union sur les ondes de CIBL 101,5, qui est bien meilleur en direct. Bon, le soleil n'est pas là, mais la chaleur est là, hein? C'est vendredi. Mais je veux le répéter, hein, au cas où que vous auriez besoin de revivre cette expérience extraordinaire d'être avec nous, vous pouvez aller sur la page de CIBL, aller sur la programmation, c'est sur HTTPS... www.cibl1015.com et vous pouvez nous réentendre. On parle de nos garde-robes aujourd'hui, peut-être de la vôtre aussi. Alors, bonjour équipe, je vais essayer de tous vous nommer. Il y a du monde, hein? Merci les amis. On n'est pas, je ne suis pas Christian, mais quand même. Jean-Nicolas de Biasi, Bondi, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Guillaume qui est à tes côtés, Guillaume Girard.
Bonjour, bonjour.
Tu es ici, ben je vais le dire pourquoi tu es ici tantôt. Alexis Curodeau-Coderre.
Allô.
Ça va bien?
Oui.
Oui. Tu es à côté d'Ariane Monzerel.
Allô.
Puis on a également France Drouin.
Ben bonjour tout le monde.
Ça va bien?
Ben oui, ça va bien.
Et puis, il y a une petite nouvelle qui va peut-être décider de rester. On verra, on verra. Cathy Foucault, notre X!
Oh oui, c'est moi. Bonjour tout le monde.
On n'en avait pas avec nous. Puis on a une invitée de France qui se joint à nous, qui est là en public, public en délire, qui est là devant nous, Louise Marie. Et puis, je crois que vous aurez bien des choses à partager, gang, avec notre invité aujourd'hui. Je pense à Jean-Nicolas qui... j'espère que tu vas pouvoir nous parler de l'impact de la mode et comment rendre le seconde main, hein, désirable.
Exact, exact.
Et puis, là, je le dis, là, Guillaume Girard, en tant qu'enseignant au Collège La Salle en mode, je pense que tu as des choses à dire.
Peut-être un petit peu.
Peut-être un petit peu. Et puis, ben, Alexis, toi qui a fait ta maîtrise, la même que notre invité que je vais nommer bientôt. Alors, voilà le moment. Notre invitée, Marianne Frève. Il faut que je me concentre pour dire ton nom comme il faut parce que j'ai...
L'histoire de ma vie.
Ben oui, c'est ça, tout le monde dit Fèvre.
Oui.
Exactement. Mais là, on va se mettre à l'aise, là, hein, parce qu'on a une petite mise en bouche qui était appropriée, moi, je pense, c'est MC Solar.
Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets. Mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle en magazine, des magazines dans lesquels elle pense trouver le rebond ultime. Maso à l'assaut de ses formes rondelettes. Elle était occupée à couper du PQ dans le pic. Elle était une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Lumière, scène de l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ. Quand on lui pique, elle est fait une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion, à la logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont attestés, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ma tactique tic attaque, tout est tic avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce funky beat. La quête
de l'image, la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Son nom de code. Jimmy J.
Mais Jimmy, tu connais l'histoire. Yes.
Eh ben c'est le temps, c'est le temps. Écoute, on se disait, pendant la pub, on disait plein d'affaires. Dans la pub, je disais, parce que vous écoutez nos réseaux, hein, puis vous savez de quoi il parle. Je parlais dans la pub, hein? Non, même mon fils n'écoute pas ma pub. Espèce de passion.
Oh, la pub de la semaine.
Ouais.
On pensait que tu parlais de la toune qui vient de jouer.
Ah, la toune, ben, c'est MC Solar avec Victime de la mode. Ben, nos auditeurs connaissent ça, franchement. C'est sûr. Bon, je disais dans la pub que... j'ai ouvert mon garde-robe, puis j'ai dit, mais finalement, je mets tout le temps les mêmes affaires. Aujourd'hui, pas, je me suis forcée. Mais on met presque tout le temps les mêmes affaires. Puis pourquoi donc on achète autant de vêtements? Puis là, c'est Marianne Frève, qui va répondre à cette question.
Ben oui, on achète vraiment beaucoup de vêtements, là, juste pour une petite mise en bouche. En 2012-2013, c'est 150 milliards de vêtements qui ont été consommés globalement là, sur la planète. Puis on peut s'imaginer qu'en 2020, c'est un petit peu plus. On sait qu'on a doublé notre consommation de vêtements en l'espace de 20 ans. Donc entre 2000 et 2020, on a doublé la consommation totale de vêtements.
Versus combien de population?
Versus, vraiment pas, on n'a vraiment pas doublé la population globale de la planète en 20 ans, mais on double notre consommation. Fait qu'on était peut-être 5 milliards là, en 2005 versus 7-8 milliards là, en 2020. 7 milliards en 2020. Donc, pour cette augmentation de population-là, c'est vraiment pas proportionnel avec la consommation de vêtements. Là. Donc, il y a plein de choses qui expliquent cette surconsommation-là. Là.
Fait que, comment ça t'est venu l'idée de faire cette recherche-là? Là?
C'est venu d'une frustration, je dirais, de ne pas trouver les réponses que je cherchais dans la littérature scientifique en ce moment. Je trouve qu'on déresponsabilise un petit peu trop souvent, à mon goût, dans la recherche sur la mode, là, le consommateur. Fait qu'on va souvent proposer genre, des solutions de l'ordre de la mode durable, des biomatières, là, des matières biosourcées ou des matières recyclées comme le polyester recyclé, mais on ne revient jamais vraiment remettre en question cette société de consommation-là ou cette consommation effrénée de la mode. En tout cas, pas comme une solution potentiel à ces enjeux environnementaux-là. Donc, je pense que c'est important de remettre quand même une part de la responsabilité entre les mains de la population, même si c'est pas à tout sur nos épaules. Là. On peut pas porter le fardeau moral de toute cette industrie-là sur nos épaules, mais ça reste que consommer, je me souviens plus qui disait ça, mais consommer, c'est un acte politique et avec des répercussions. T'sais. Donc, quand on pense au fait que 20 % de tous les déchets mondiaux, c'est des déchets textiles, soit des vêtements ou des produits textiles, c'est énorme. Fait que ça a un impact direct sur la planète. Donc, je voulais aborder, c'est ça, le sujet des consommateurs, de la surconsommation de cette société-là de consommation. Puis, c'est pourquoi je fais un mémoire en ce moment sur la phénoménologie de l'habillement. Donc,
la phénoménologie... T'es bonne de dire ça d'une shot comme ça?
Je l'ai pratiqué. mais en gros, c'est ça. C'est j'essaie de comprendre un peu plus, un peu mieux la relation entre les gens et la mode et les tendances.
Fait que, c'est quoi ta méthodologie? Qu'est-ce que t'as fait? Comment t'es partie?
En gros, ben, la phénoménologie, c'est une façon juste d'approfondir nos connaissances. Déjà, en fait, on connaît assez bien la façon dont les gens consomment, les habitudes de consommation nord-américaines. On connaît bien les facteurs sociaux, culturels qui viennent nous influencer au quotidien. Mais la phénoménologie permet d'approfondir ou du moins de nuancer puis de comprendre un petit peu mieux comment le consommateur, comment la personne elle-même s'explique sa consommation. Donc, on n'est pas nécessairement conscient de tous ces facteurs externes-là à nous et culturels qui viennent nous influencer au quotidien. Donc, je voulais vraiment voir, c'est un peu psychologique aussi, là, essayer de voir comment les gens expliquent, eux, leur choix, pourquoi on choisit tel ou tel vêtement au lieu de tel ou tel vêtement. Donc, poser vraiment des questions au niveau des choix de style, de tendance, qu'est-ce qui est conscient, qu'est-ce qui est moins conscient. Voilà. Puis, pour y arriver, je demande à mes participants, j'ai 20 participants en tout, puis je demande à tous mes participants de faire un audit de garde-robe, c'est-à-dire de prendre en photo la totalité de leurs vêtements. l'idéal, c'est vraiment, comme le fait Louise, un à un, tous les vêtements, un à un. Comme ça, on les met sur la table là, et on a vraiment une vue d'ensemble sur toute la garde-robe. C'est super intéressant.
Je suis à la retraite.
Et puis, c'est ça, ça me permet de poser des questions vraiment ciblées là, sur les vêtements, de demander, c'est quoi ton vêtement préféré, ton outfit préféré, au contraire, ce que tu portes jamais, est-ce que tu as des vêtements qui ont encore des étiquettes dessus? Et donc, après cet audit de garde-robe-là, c'est ça, on fait une entrevue de 1h, 1h30 avec les participants.
Mm-hmm. 20 personnes, scientifiquement, qu'est-ce que ça représente?
C'est sûr que je peux pas venir extrapoler mes résultats à toute la population. C'est un trop petit échantillon. Mm-hmm. C'est vraiment... mais vu que c'est de la phénoménologie et que c'est des entrevues qui vont vraiment en profondeur puis qu'on vient analyser ça après ça comme en 9 étapes, là, c'est quand même long, là, le processus d'analyse, l'interprétation des résultats. Donc, c'est vraiment... C'est tellement long, mais c'est pour ça qu'il faut un petit échantillon. Au départ, j'avais 10 participants, mais on a trop de fun. Fait que là, on a augmenté à 20.
OK.
Fait que c'est ça, j'ai comme deux groupes.
Il
reste des places? Oui, je cherche encore 6 personnes.
Ah, des gars?
Encore. Des 6 personnes, des gars, oui. Oui? Oui, je cherche des gars. Fait que je vous regarde.
Moi, je me suis proposé, puis t'es comme non, c'est peut-être bizarre si c'est des collègues.
Mais ça, je te connais trop bien,
Alex. De toute façon, il y a... Il y a quoi?
Deux t-shirts et un jean?
À peu près,
c'est
oui!
C'est super intéressant, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'ai un groupe de consommateurs, un peu comme Alexis, là, dans le minimalisme, là, j'ai un groupe de 10 personnes qui achètent environ 10 vêtements et moins par année. Puis j'ai un autre groupe de consommateurs qui est plus de l'ordre de 50 morceaux et plus par
Incroyable.
Année. Puis je viens comparer les résultats.
Je t'arrête pour faire un petit clin d'œil à la semaine dernière. De quoi tu parlais la semaine dernière?
Il y a Mais depuis Clément tantôt, je t'entends parler.
Ah, mon Dieu!
Depuis tantôt, je t'entends parler, je suis comme, « là, je serais une drôle de candidate dans ton étude. »
Alors, vas-y.
Parce que je parlais du 75 Hard Day Challenge, mais pas le truc là, de sport. Là. En fait, l'idée, c'est pendant 75 jours de ne pas acheter de vêtements neufs, ni usagés, et de reprendre seulement des vêtements de ta garde-robe. Et là, Clément était comme, voir que c'est un défi.
Je suis quand même là. Il dit ça un an.
Mais c'est ça. Mais moi, j'expliquais que souvent, je pense que le spectre de la consommation, mais aussi de l'achat de vêtements, change beaucoup lorsqu'on est une personne plus 16, avec les quantités, avec les disponibilités, puis avec la variété de vêtements qu'il y a. Puis, en tout cas, c'est une grosse discussion, mais après, on est rentré sur la mode éthique aussi. Puis, comme la mode éthique plus 16, ça existe presque pas. En tout cas, c'est un autre débat.
Ouais.
Et là, là. Là, j'aimerais savoir, peut-être que si vous avez des questions, allez-y, en gang. Mais moi, j'aimerais savoir si tu as vu, sur 20 personnes, peut-être moins, as-tu vu des extrêmes et au contraire des constances?
C'est sûr que là, ma recherche n'est pas terminée encore. Là, j'ai 10 entrevues de fait sur 20, mais je vois déjà comme des petits points ressortir, mais je peux vraiment pas dire que c'est final. Mais ce qui est intéressant, c'est que je remarque un petit tabou pour certaines personnes quand je leur parle de style. Comme le style n'est pas très assumé ou non, moi j'ai pas de style. Non, moi j'ai. Puis là, comment on va expliquer un peu nos choix? On va dire, je prends ce que j'aime, OK? Mais là, je te demande, pourquoi t'aimes ça? Puis là, j'essaie de gratter ça un petit peu
je
plus.
Je sais.
Ouais, puis quand je parle de style, je dis, comment tu définis ton style? Là, c'est ça, j'ai deux réponses, soit comme une réponse super assumée de, moi, j'aime l'éclectique, j'aime ressortir du lot, j'aime porter des couleurs. Par exemple, les années 80, 70, j'aime beaucoup. Fait que là, j'ai ce genre de discours-là. Puis à l'inverse, j'ai vraiment un discours qui est comme un peu gêné. Là. Non, moi, j'ai pas de style. Non, moi, je regarde pas vraiment ça, les tendances. Et voilà.
Bien, Est-ce que c'est quoi le je sais pas si tu peux donner toutes ces infos là, mais est-ce que genre c'est quoi le groupe d'âge de ton échantillonnage? Est-ce que c'est quand même assez élevé ou c'est principalement présentement des personnes de notre génération Y, Z? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un envie puis un dégoût d'être catégorisé dans quelque chose, même s'il y a beaucoup de courants esthétiques qui sont nés dans les 4 dernières années. Mm-hmm. Mais je pense que... Puis aussi un rejet du capitalisme en général. En tout cas, fait que je me demande si c'est pas lié à ces enjeux... À cette partie du spectre. Je m'exprime vraiment mal.
C'est une bonne question. Là, j'essaie vraiment d'avoir la plus grande diversité possible là, dans mes répondants, là, fait que, dans mes participants. Fait que j'ai des gens de 24 ans, 28 ans, 32 ans. Il me manque un peu de que... X. Génération X.
C'est moi. Je suis prête à en parler.
Ou à participer. J'ai
aussi.
Des personnes de 60 ans aussi, retraitées. Puis j'ai des gens aussi... j'essaie aussi d'avoir des personnes non-binaires. J'ai deux personnes non-binaires. Fait que j'essaie quand même d'avoir une diversité de répondants. Mais c'est sûr que c'est surreprésenté quand même, là, la génération, les milléniaux puis la génération Z. Là.
Il y a France qui avait une question.
Mais est-ce que la mode, c'est pas d'être bien dans les vêtements qu'on porte sans nécessairement la suivre?
Bien, tout à fait. Là. Moi, je suis
100%. Parce que je suis une adepte de « je me sens bien, je me vois bien dedans » et je le porte. Si je ne me sens pas bien, ça a beau être un vêtement hyper à la mode, super stylé, mais si je ne suis pas bien dedans, je ne le porterai pas. Là.
Bien, c'est ça. C'est vraiment une voie de réponse, justement, là, dans laquelle je me dirige. C'est l'attachement qu'on a envers nos vêtements. Puis ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, surtout les jeunes, il y a une grande portion de la consommation qui est comme traduite par une recherche identitaire. Là.
Ouais, cette surtout recherche, les ados. Là.
Oui, c'est ça. Puis la recherche identitaire, autant identitaire, identité de genre, il y a beaucoup d'exploration qui se fait par la mode. Fait que dans quoi on se sent bien, je dirais que ça se définit beaucoup avec l'âge. Puis plus on est jeune, plus on a tendance à vouloir expérimenter plein d'affaires puis à se chercher encore. Puis je pense que quand on est confiant avec qui on est, on a une personnalité qui est solide, ben là, on consomme moins parce que justement, on sait dans quoi on est bien.
Ouais.
Jean-Nicolas m'a transféré un beau petit document, puis dans le document, la personne disait qu'un des moyens, justement, de moins consommer, c'est si on se trouve un style. C'est plus facile à ce moment-là de se limiter, et puis que si jamais on a un besoin, je sais pas moi, pour ce qui est d'un manteau d'hiver, puis tout ça, bon, on reste dans le même style, ça va s'amalgamer avec ce qu'on possède déjà. Alors, on n'aura pas besoin d'ajouter quelque chose qui va aller avec la nouvelle chose.
Exactement.
Parce que ça va déjà avec ce qu'on a comme base, comme style. Ariane, ouais, t'as quelque chose à
ça
dire?
Ça m'a comme vraiment interpellé ce que t'as dit, France, parce que, oui, il y a des moments que je m'habille pour être confortable, mais genre la majorité des gens qui sont autour de moi diraient que je ne suis pas confortable la moitié du temps. Mais moi, je me sens confortable. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Mais c'est plus au niveau de... Moi, j'aime quand c'est esthétique. Fait que même si... c'est pas nécessairement le truc le plus confortable, ben je vais rester esthétique, comme parce que dans ma tête...
Mais selon les occasions, peut-être?
Non, moi, je suis tout le temps habillée comme... Je suis tout le temps habillée comme si je serais prête à aller dans un événement X,
OK, grec. OK.
Ouais, ouais.
Mais j'en ai
quand même pas ailleurs qu'ici des fois, avec oui, en effet. Puis je vais faire des pros en robe puis en talons. En tout cas, bref, ça, c'est un autre gimmick. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la mode, c'est une manière d'exprimer aussi un côté artistique puis d'exprimer un esthétique. Puis quand je m'habille, ben là, je regarde plus toi, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est appris aussi dans les cours. En tout cas, je ne sais pas. Comment c'est traité, ce sujet-là?
C'est
Guillaume qui parle, le prof.
Le vêtement correspond en fait à 4 fonctions de base. Puis la première fonction, ben, c'est une fonction de protection. Fait qu'on s'habille parce qu'il fait froid puis on veut avoir chaud, tu sais, mettons. Mm-hmm. Puis après ça, tu as des fonctions plus de communication. Fait qu'on veut communiquer, par exemple, son statut, par exemple, qui on est au final. Mm-hmm. Puis il y a des fonctions aussi qui sont plus sociologiques. Fait que démontrer notre appartenance à un groupe versus à un autre. Fait que quand tu dis ce que tu viens de dire, en fait, je m'habille parce que ben je veux démontrer un peu mon côté artistique, qui je suis, machin chouette. Je m'habille parce que je veux être confortable. Il y a une portion d'identité. L'adapte, c'est le dernier, est plus psychologique, en fait. Fait que c'est ces éléments-là, en fait, qui existent dans la construction de son propre style et du style de façon générale dans la société, en fait.
Très édifiant. On reprend la pyramide de Maslow à ce moment-là.
Puis, mais il y a quelque chose de particulier aujourd'hui, c'est que on remarque que, justement, ces identités-là sont très volatiles. Puis avec la société capitaliste, la société de spectacle, il y a cette volonté-là aussi de changer un peu d'identité, en fait, d'image aussi rapidement que les tendances arrivent. Mm-hmm. Fait que des fois, on associe ce qui est identitaire ou esthétique à plutôt une tendance qui a été un peu forcée sur nous par le biais d'entreprise.
Oui, bien, un document que là, c'est Alexis qui m'a fourni là-dessus, qui parle de TikTok les influenceurs sont là pour dire aux gens achète. Mm-hmm. Et puis la compagnie, il y a une question aussi des compagnies Shane. Ouais. Et Tubi.
Tubi?
Timou. Tubi, on a Timou. Et puis, c'est 1 500 000
styles
par année qui sont proposés. Pas des items. Mm-hmm. 1 600 000. Puis là, ils se comparent, là, c'est genre l'échelle de 1 à 1000 par rapport à Gap, H&M, puis Zara, là, c'est des monstres.
Mm-hmm. Mais Louise, Guillaume, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que, mettons qu'on recule, là, il y a à peu près 40 ans, mettons 50, la mode se diffusait de façon très différente qu'elle l'est aujourd'hui. À la base, tu avais deux fois par année des semaines de mode dans plusieurs villes, puis là, ben, les journalistes et les acheteurs des grands magasins allaient dans les défilés, puis ben, ils voyaient les choses, puis il n'y avait pas le droit de parler des collections avant 6 mois,
non plus,
tout
hein?
ça. Il y avait le droit de dessiner, il n'y avait pas de photo.
Ah, pas de photo.
Puis là, à un moment donné, est arrivé quelque chose, je ne sais pas, vous connaissez ça, Internet? les médias sociaux ont fait que le cycle de la mode s'est raccourci énormément parce que avant, les consommateurs voyaient une fois par mois quand les magazines sortaient des nouvelles tendances, des nouveaux éléments de mode. Mais là, aujourd'hui, à chaque jour, j'ouvre mes réseaux sociaux puis ce que je vois, c'est un nouveau look, une nouvelle chose. J'ai une marque qui peut me vendre, essayer de me vendre un produit. Ça change notre rapport à notre garde-robe aussi. Puis ça rejoint un peu ce que Marianne disait tantôt. Il y a l'aspect identitaire, en fait. Où est-ce que nos identités sont plus fluides, elles se reconstruisent, elles se reconfigurent, même en fonction d'où est-ce qu'on est. Si je suis à l'école versus si je sors le vendredi soir, j'ai pas la même identité, donc je vais l'exprimer différemment à travers ce que
encore
je porte.
Encore aujourd'hui,
aussi.
Votre gang, là?
Mais de façon générale,
les années 80,
les gens...
on se déguisait, là, quand on sortait.
Exactement. Mais c'est vraiment bien dit. Puis pour faire du pouce sur ce que Guillaume vient de dire, l'Internet, puis aussi le libéralisme économique, puis la globalisation des marchés qui a permis l'essor justement de la fast fashion, puis d'une mode de plus en plus cheap, bon marché. Jamais on aurait pu anticiper qu'on serait un jour capable de vendre des vêtements comme un chandail à 6 $. C'est ce qu'on voit sur les magasins comme
ça. Ça, c'est un autre aspect. Le chandail à 6 $, c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est pas encore des machines qui font de A à Z. Imaginez le salaire de cette personne-là. C'est gênant, là.
Ouais. C'est gênant.
Tu le prends, là, puis tu te dis, regarde, là, elle a une pièce par jour, à peu près, là, qu'elle a
Quand il y a un salaire, ce qui n'est pas tout le temps le cas.
Comment tu dis?
Quand il y a un salaire, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Je ne sais pas si tu as entendu parler des Ouïghours, notamment.
Oui, les Ouïghours, exactement. Pas...
Mais quand tu t'habitues à avoir des vêtements à 6 piastres, tu sais, comme l'autre jour, je rentrais pour le fun chez Koss, là, qui... j'ai rien acheté. À chaque fois, je vais chez Koss, j'achète rien. Je vais chez Koss, je suis comme, ah, c'est cool. Puis là,
c'est
je regarde un t-shirt à 150 $.
Celui de Sainte-Catherine, là. Oui, je sais, c'est
mon intérieur se révulse de comme, 150 $ pour un t-shirt. Pourquoi j'achèterais ça? Fait que je m'en vais, je sors de là, mais je suis comme.
Tu vas chez Uniqlo.
Je pense que je l'achèterais, le t-shirt à 150 $, si je sais que la personne qui le fait, que c'est pas juste, je paye pas juste pour un style, puis que c'est la même personne au Bangladesh qui fait Gap et Koss, genre dans la même ligne d'assemblée, je sais pas.
Ce qui est insultant avec Koss, c'est qu'on s'imagine que vu que c'est 150 $ et plus, on s'imagine que justement ça a été fait de façon éthique, là, mais c'est quand même une sous-marque de H&M. Là.
Ah! Tu vois?
Ouais.
Ah. Non!
Oui.
Ceci étant dit, je vais prêcher pour leur paroisse un petit peu. Effectivement, c'est une marque de H&M. Par contre, ils ont quand même un effort qui est fait pour avoir des tissus qui sont davantage durables, mm-hmm. beaucoup plus de tissus recyclés, des laines durables, des choses comme ça.
Et un design intéressant aussi qui a été travaillé, des finitions. Il n'y a pas les mêmes finitions chez H&M que chez COS. C'est quand même pas comparable.
Aujourd'hui même, j'ai vu, parce qu'il y a une page que je suis qui s'appelle « Tout ce qui se répare ». Puis là, il montrait un chandail qui était plein de trous, un chandail en laine mérinos. Et puis, elle demandait à la personne, comment faites-vous pour réparer ça? Est-ce que vous arrivez? Puis, là, j'ai vu une série de commentaires. Vous l'avez acheté chez Costco. Il disait que tout ce qui venait de chez... Tous les mérinos de Costco avaient tous ce problème-là.
Bien, écoute, là-dessus, là, Louise, c'est super drôle parce que moi, j'utilise souvent à mes étudiants l'exemple du chandail de cachemire. Mm-hmm. Un chandail de cachemire, là, tu peux en acheter à 600 $ comme tu peux en acheter à 40 $ Je vous garantis que c'est pas la même qualité de cachemire qu'il y a dans celui à 600 $ versus celui à 40 $ Le chandail de cachemire que vous ou en mérino que vous achetez chez Costco, ben il va vous durer beaucoup moins longtemps que celui que vous avez acheté dans une marque qui est plus haut de gamme parce que nécessairement il y a une question de coût-bénéfice. Les entreprises sont là pour faire de l'argent, donc nécessairement ils s'assurent d'avoir un niveau de marge de profit. Il faut qu'ils coupent à quelque part, tu sais.
Mais là, tout le monde a remarqué, hein, depuis quelques années, que au niveau du ventre, il y a plein de chandails qui ont des trous. C'est fou, là. Moi, j'ai plein de chandails qui ont des trous au niveau du ventre. Tout le monde dit la ceinture, le jeans. Bouton. Ben, c'est parce que j'ai 66 ans. Ça fait pas 10 ans que je porte des ceintures puis des jeans. Ils faisaient pas ça, les chandails, avant. Ils font tout ça. Puis là, vous le voyez pas, cher. Je vais vous le mettre sur Internet. J'ai devant moi un chandail que ma mère a porté jeune, que ma sœur a porté jeune et que moi, j'ai porté jeune, mais j'ai malheureusement brûlé. Oh. Mais il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, chandail, là.
Mais c'est drôle parce que tu l'as brûlé directement vis-à-vis le nombril.
Ben, probablement, c'est le cordon ombilical qui n'était pas coupé.
C'est ça.
Non, mais c'est juste pour vous dire que tu portais ce chandail-là?
Non, mais je porte le linge de ton père.
Oui, c'est ça. Mais c'est fou, là. Ça fait... Ce chandail-là a 64, peut-être 80 ans. Puis il n'y a pas... Oh, il n'est pas usé pantoute. Je l'ai mis en masse.
Mais quand ma grand-mère est décédée il y a quelques années, j'ai fait le ménage de son garde-robe. Puis, en tout cas, il y a aussi une manière de prendre soin des vêtements. Mm-hmm. Moi, ma grand-mère, elle avait des vêtements de sortie, puis elle avait des vêtements. C'est vraiment une femme de son époque. Puis il y a des robes que j'ai jamais vu ma grand-mère mettre, mais que ma sœur pourrait mettre aujourd'hui, parce qu'elles étaient tellement en bon état, même si elles ont été achetées dans les années 40-60. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a cette manière-là de. Il y a un respect pour le vêtement, parce que. Avant, t'achetais quelque chose, puis ça coûtait cher acheter le vêtement en question, tu sais. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est vraiment plus facile d'acheter un vêtement, là.
Une chemise, un pantalon, des chaussures et un manteau. Une jupe, un chemisier, un t-shirt et une casquette. Une chemise, un pantalon, des chaussures et un manteau.
Ah, c'est un petit bout d'Alain Lelay qui chantait les vêtements, mais c'était une chanson pour enfants, hein, fait qu'on mettra pas tout ça. Donc, Marianne,
oui,
tu as fait, ben en fait, je sais pas si tu as terminé ta maîtrise, mais c'est en design de l'environnement, tout comme Alexis.
En sciences, pardon.
Oui, c'est moi ce design de l'environnement.
Mais j'ai fait un DEC et un bac en design de mode, puis j'ai travaillé un an et. J'ai gradué, je suis chanceuse, j'ai gradué en 2020, juste comme la COVID arrivait. Mm-hmm. Fait que j'ai travaillé après ça un an dans le domaine en freelance, là, à contrat. Puis je suis retournée à l'école après ça faire ma maîtrise en sciences de l'environnement. C'est là que j'ai rencontré Alexis.
Mm-hmm. Et puis, donc, si on revient à ta recherche, je te laisse aller.
Bien, dans le fond, pour finir un petit peu là, ma présentation de mon projet, là, si je peux conclure, je parlais de mes deux groupes de consommateurs là, qui... Un groupe qui consomme pas beaucoup, un groupe qui consomme un petit peu plus. Mais je vous ai pas mis en contexte que la moyenne américaine de consommation de vêtements par année, là, c'est 70 vêtements par année qui est consommé en moyenne, donc un vêtement tous les 5 jours et demi. Mais on sait que c'est...
Attends, là, je veux bien comprendre. Mm-hmm. Donc, la personne moyenne, elle en aurait 200 ou 70, elle en porte en moyenne 70?
Non, elle achète en moyenne 70 vêtements par année. Mais on sait qu'en fait, dans une garde-robe, ce qu'on porte activement, c'est environ 30 % de notre garde-robe. 20-30 % qu'on porte vraiment. Donc voilà, fait que ça met un petit peu plus en contexte mes chiffres de tout à l'heure. Puis Ariane avait, j'ai le goût de faire du pouce sur ce qu'Ariane avait dit tout à l'heure, puisque je trouvais ça vraiment intéressant, le défi 75 jours sans vêtements, c'est ça. Mmh. J'ai vu passer aussi un défi comme ça, ça fait pas très longtemps, au Québec, là. Donc c'était quelque chose comme 3 mois sans fast fashion. C'était ça le défi. Oui, c'est ça, exactement, avant Noël. Puis je m'amusais à lire les commentaires, puis j'étais un peu déçue de voir qu'il y avait beaucoup de designers québécois qui étaient un peu outrés de ce challenge-là, de ce défi-là, comme si ça allait affecter, en fait, les ventes, leurs ventes à la baisse. Moi, je pense que, puis on peut en débattre ensemble.
Avec Guillaume, oui.
Moi, je pense que c'est en fait une belle opportunité pour nos compagnies locales. En fait, je pense que quand les gens achètent un petit peu moins de, j'ai le goût de dire crap, mais un petit peu moins de vêtements,
t'as raison. On achète du bon,
cheap là, sur internet,
du
là,
local.
Exactement. Ben, ça nous fait un petit peu plus d'argent dans le portefeuille pour encourager les compagnies d'ici qui veut pas coûte plus cher parce que ça a été fait avec des gens qui ont été bien payés pour les faire. Donc.
Ouais, ta réaction à ça, Guillaume?
Je comprends très bien ce que tu dis, puis je suis d'accord. Je peux aussi quand même essayer de me mettre dans la peau de nos créateurs québécois qui ont énormément de difficultés à survivre. On a quand même un écosystème de mode à Montréal qui est très, très riche, mais qui est très fragile.
Mm-hmm.
Les consommateurs ont beaucoup... Tu sais, l'industrie de la mode aujourd'hui n'est pas ce qu'elle est versus ce qu'elle était il y a 20-30 ans, au moment où on avait énormément de production qui était faite. Encore ici, on se rappelle qu'à une époque, on était le troisième pôle de mode en Amérique du Nord.
Quand ça, à peu près, les années 80-90?
Oui, 80-90. Je crois qu'on est encore assez élevé, mais on produit plus beaucoup ici. Beaucoup de ce qu'on appelle des marques privées ici à Montréal. Donc, on va probablement faire des lignes, en fait, de designers internationaux, des choses comme ça. J'ai une amie, c'est très drôle, mais il y a quelques années, j'ai une amie qui travaillait à Montréal pour une compagnie qui faisait la marque de Gwen Stefani, L&B. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle du private label. Mm-hmm. C'est, en fait, des designers qui dessinent. Elle a un droit de veto sur ce qui va sortir, puis ça s'arrête là. C'est un peu ce même genre de production-là. Fait que je peux comprendre le levée de bouclier. En même temps, je suis d'accord avec toi de dire, ben mettons qu'on en consomme un peu moins de vêtements cheap, ben peut-être qu'on a l'occasion, en fait, à ce moment-là, d'aller acheter des choses de meilleure qualité, tu sais.
Mais moi, je pense, tu sais, dans mon cercle d'amis, c'est quand même une discussion qu'on a souvent, là, parce que c'est sûr que moi, j'adore acheter local, puis dès que je peux le faire, je vais le faire. Mais en tant que personne plus âgée, c'est vraiment plus difficile, j'ai l'impression. Mm-hmm. Puis tu sais, même au festival, le mode et design, ça fait 2-3 ans, ben j'y vais à chaque année, là, mais ça fait 2-3 ans que je trouve que ben, on a perdu un petit peu de la qualité des marques qui sont présentées au profit de marques d'influenceurs ou d'influenceuses qui, j'imagine, ont aussi des designs à l'intérieur et derrière tout ça. Mais je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de belles marques que j'ai découvert, mettons, au Salon des métiers d'art, qui sont pas au Festival des designs, puis il y a comme une grosse portion de capitalistes là-dedans. Là, mais comme... En tout cas, je pense qu'il y a aussi une mentalité, puis il faut changer un petit peu la perspective, parce qu'on la voit pas, la mode faite ici. Souvent, c'est ça qui se passe.
Ça, c'est vrai qu'on la voit pas.
C'est difficile, en fait. On avait, à certaines époques, le Bureau de la mode de Montréal, exactement, qui faisait quand même certaines offensives, certaines choses. On avait quand même la semaine de mode de Montréal. C'est un écosystème à Montréal qui est un peu complexe parce que on a beaucoup de détaillants qui sont très forts. Je pense à Dynamite, je pense à La Vie en Rose, qui est d'ailleurs en expansion aux États-Unis présentement, qui est quand même, c'est quand même des fleurons de la mode au Québec qui sont quand même intéressants. Puis on a un volet qui est plus des producteurs, ou est-ce que c'est plus du savoir-faire, pas exactement du savoir-faire, mais c'est beaucoup plus fait main, des choses comme ça. Je pense à des compagnies comme Atelier B, par exemple, qui ont une vision qui est un petit peu différente de la mode par rapport à ce qu'on a. Fait que c'est un écosystème qui est complexe quand même parce que on a ces deux solitudes-là, en fait, qui existent en même temps. Puis malheureusement, quand on est un designer de plus petite envergure, puis je veux pas dire que ce qu'ils font c'est pas extraordinaire, là, mais Atelier B ont pas les mêmes moyens, par exemple, de se faire voir qu'un Dynamite.
Je pense pas que ça serait aux petits designers de se faire connaître. Je pense que c'est au gouvernement de mettre en place un budget adéquat pour la culture.
Ben c'est ça, c'est.
Mais ça c'est une autre discussion. Aussi.
Non, mais t'as raison, Ariane. Finalement, là on s'en va vers une destruction de la planète, et puis en même temps on veut. Non, mais je vais aller dans les extrêmes. Puis en même temps, ben, on a une culture à chérir et à garder. Il y a un dialogue qu'il va falloir qu'il se fasse entre les deux pour que tout le monde y trouve son compte. Parce que là, comme c'est là, c'est comme un choix à faire, l'un ou l'autre.
Mais je vais faire un petit commentaire éditorial.
Après ça, Alexis.
Mercredi, il y a une grève pour la culture. Je ne sais plus où le point de départ, mais je pourrais te l'envoyer si tu veux partager sur la page Instagram. Mais je pense que c'est vraiment important de rappeler que comme ça va vraiment mal dans la culture en général.
Ouais. Mm-hmm. Alexis, tu avais une réaction par rapport à ça.
J'allais réagir parce que tu dis c'est l'un ou l'autre, mais... La culture est dans la solution, genre, tu sais, c'est ça qui est terrible.
C'est... Oui, ben c'est vrai, parce que ça, c'est l'expertise d'Alexis. C'est d'amener la culture à être une réponse aux problèmes environnementaux.
Mais j'aimerais être divergent sur quelque chose ici qui est... Est-ce que la mode fait partie de notre culture identitaire montréalaise? On n'a quand même pas cette tradition comme la France, par exemple, qui où est-ce que la mode fait partie de leur héritage, qu'ils ont nourri cet héritage-là, etc. Ce qui est complexe, c'est que je ne crois pas qu'à Montréal, au Québec, on a une culture, on a une identité de mode qui est uniforme, puis qu'on peut promouvoir de la même façon. Puis je te vois, Marianne, que...
Cathy voulait se prononcer aussi.
Mais en fait, c'est drôle parce que j'apprends tellement d'affaires, là. Moi, je suis tout le temps habillée en noir. Ah, je veux dire, je peux passer partout. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Mais quelque part, je trouve que c'est avec beaucoup d'éducation. On parle d'acheter local. Je veux dire, puis c'est vrai que la culture, on part avec ça, mais c'est tellement important de promouvoir. On a tellement sur YouTube, sur des TikTokers qui vont promouvoir des trucs. OK, on s'en fout de Kanye West. Sérieusement, génial que tu vends tes hoodies 28 $, mais le frais de shipping est 48, lui. En tout cas, ce que je veux dire, en gros, c'est que effectivement, on devrait avoir notre partie nous-mêmes, notre identité aussi de dire, regardez, voici ce qui se passe.
T'es en train de conclure, toi, là.
Oh, non, non, non! Vous m'avez invité, moi, je me... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que ma génération, à moi, on était toujours en bloc. Hein? T'étais peut-être habillée en noir ou en gothique, quoi, peu importe. Puis on était très segmentés, tu sais, nous... Mais là, je vois qu'il y a tellement d'ouverture, puis je peux comprendre que tout le monde veut changer de look, comme on change de couleur de cheveux, puis c'est génial. Mais l'impact qu'il y a est tellement grand.
Oui, bien, c'est à ça que...
Qu'on doit passer par l'éducation. Tu sais, je veux dire, moi, avant, il n'y a pas très longtemps, parce que, comme je te disais, que je suis tombée sur un reportage sur l'effet de la mode sur la planète, j'en avais aucune idée pour moi.
Ah non!
Vraiment aucun, parce que
c'est vrai, d'abord!
Non, parce que, en fait, moi, mon fils se promène dans les Renaissances partout à Montréal, et je l'encourageais à faire ça. Mais quelque part, ce que j'ai compris en écoutant le reportage, c'est que finalement, ça n'arrête pas l'achat des autres, parce qu'ils s'en débarrassent. Donc, on fait juste... L'engrenage est quand même là. Donc, choisir des bons morceaux qu'on va garder longtemps, de meilleure qualité, encore l'éducation.
Bien là, France, je voulais dire quelque chose, puis après ça, Jean-Nicolas, qui est une espèce d'expert en réutilisation.
Pas jusque-là.
En fait, ce qui est difficile, c'est le recyclage des tissus. Tu sais, je veux dire, si un gros gaspillage au niveau de la planète, on n'a pas encore trouvé une façon de le recycler. Je sais qu'il y en a qui font des matelas, il y en a qui font plein de choses avec ça, mais c'est quand même quelque chose de difficile encore à concevoir, puis on devrait, ben, en tout cas, on exclut moi ou inclut moi, on devrait comme travailler la base là-dessus pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. De plus, je trouve qu'on entend moins parler des designers, mais plus de groupes. Tu sais, avant, on avait comme des designers comme Marie-Saint-Pierre, puis tout ça. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est qui les designers.
Non, ça change à chaque designer québécois.
C'est super étonnant parce qu'on a plein de designers québécois qui ont un succès à l'international. Je pense à un designer comme Trois Paradis, qui est basé à Montréal, qui passe son temps entre Montréal et Paris. Il y a malheureusement Le Cavalier qui a dû, qui est parti, Marie-Ève, en France. Parce qu'elle n'avait pas de support. Tu sais, tantôt, je me suis donné le droit d'être en désaccord sur le fait que est-ce que la mode fait vraiment partie de notre culture ici. Ça voulait pas dire que je pense pas qu'on doit la financer puis qu'on doit l'aider là. Puis c'est un peu ce qui s'est passé pour Marie-Ève qui nous a quittés à cause de ça en fait.
Elle nous a quittés.
Mais moi j'avais une réponse là par rapport à ça. Je trouvais que oui, c'est. Je pense que tu l'as bien dit. Ça l'a déjà été une partie de notre histoire. Peut-être une partie de l'histoire qu'on connaît moins. Je pense qu'en général, ça reste un sujet qui est très sectaire, là, tu sais, c'est...
Oui, mais genre, ça l'était pas avant. Ben, c'était... Quand t'étais tout petite, là, on les connaissait, nos designs.
Oui. Ouais.
ont incluant genre les personnes qui étudient en design de l'environnement comme toi.
Peut-être.
Je peux dire que tu étais privilégiée, mais je le pense un petit
non,
peu.
Non,
là.
Non, non.
Elle a nommé Marie-Saint-Pierre, puis.
Oui, puis Jean-Claude Poitras, puis tout ça. Je veux dire, on les connaissait, puis on s'en souvient encore, là. Mais aujourd'hui.
J'ai l'impression qu'on est quand même. On peut assumer autour de la table qu'on vient d'un cercle assez privilégié, puis c'est pas une discussion qui va arriver, mettons, dans des cercles qui sont moins. Puis après, je veux pas assumer que tout le monde autour de la table est privilégié. Vous décidez ça vous-même. Mais je pense que ça reste un sujet qui était quand même présent. Puis avant, il y avait plusieurs industries qui étaient au Québec, tu sais. Puis il y a une grande partie de l'histoire nord-américaine qui venait d'ici. C'est sûr que pas comme en France, mais c'est différent. Si on prend la place des arts au Québec, c'est un peu la même idée, tu sais. Les arts ont tout le temps été importants, ont tout le temps fait partie de notre cheminement, mais est-ce que, comme en Europe, on les a nourris puis on en a fait partie de notre politique? Pas du tout, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va mal, tu sais.
Ah, ça va mal! Mais toi, t'as une solution à... Bon, peut-être pas pour les designers.
Non, pas une solution pour les designers, mais petite parenthèse, je trouvais ça très intéressant, le fait qu'on ne les connaisse plus, parce que... juste avant, tu mentionnais aussi Jay-Z ou Kanye West, où il y a vraiment cette personnification aussi du style. Mm. Et je pense que si on ramenait un peu plus cette culture du designer, on pourrait se dire, OK, j'ai comme le goût d'être habillé comme tel designer, ou en tout cas de venir chérir cette collection. Puis j'avais une autre question, parce que je ne suis pas très au fait sur l'aspect politique québécois, notamment au niveau du textile. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des choses qui sont faites pour des personnes moins privilégiées, justement, pour rediriger les flux financiers? Je pense notamment à ce qui se joue en Europe et notamment en France actuellement, où le gouvernement veut taxer 5 euros par item de fast fashion, donc ça vaut plus vraiment la peine d'acheter la fast fashion, pour les rediriger vers de la production locale. Est-ce que
je sais pas si Marianne va pouvoir répondre, si je me trompe, vas-y, là, mais présentement, moi, j'ai rien vu qui va dans ce sens-là. On est beaucoup dans la réutilisation, puis on renvoie les surplus dans des compagnies comme le Chaînon ou des organismes qui vont venir en aide à des personnes défavorisées. Mais j'ai pas vu... Après, vous me corrigerez, là, parce que moi, c'est pas mon sujet d'étude, là, mais... En tout cas...
Je le sais pas, fait que je peux pas me répondre.
Au niveau de l'environnement et la mode, là, moi, j'ai pas vu beaucoup de choses. Il y a quand même une filière mode à Montréal. Il y a la grappe M-Mode, en fait, là, qui est, entre autres, financée par le gouvernement, qui a, en fait, l'objectif, puis l'idée de faire avancer cette filière-là à Montréal, mais ils portent une industrie à bout de bras, puis je pense qu'on les connaît pas tant que ça. Du moins, moi, j'en ai pas entendu beaucoup parler dans les dernières années. Beaucoup plus à l'époque où il y avait la semaine de mode de Montréal, qui ont essayé de relancer l'année dernière. J'ai pas eu de suivi sur ce dossier-là, moi, dans les derniers mois non plus. Fait que c'est une industrie qui vivote, en fait, qui essaie d'avancer, qui essaie de se restructurer. Mais d'un point de vue environnemental, c'est plutôt des initiatives individuelles, moi, j'ai entendu. Là. Puis Marianne, peut-être que tu sais plus que moi, là.
Ben, on parlait de privilégiés, là. C'est important de se rappeler quand même que c'est 20% des plus riches qui sont responsables avec leur consommation de 84% des impacts liés au changement climatique, liés avec l'émission des CO2, par rapport aux vêtements. Donc, c'est sûr que les privilégiés les plus riches ici au Canada, aux États-Unis, sont responsables d'une plus grande part des effets néfastes de cette consommation de vêtements-là.
Oui. Ben, je suis contente que tu reviennes sur le sujet, parce que le sujet, c'est justement, est-ce qu'on consomme trop de vêtements, faut se le rappeler. Puis c'est pour ça que, Jean-Nicolas, j'aurais aimé ça que tu parles de ta recherche que tu as faite.
Oui, en fait, c'était dans le cadre de mon master en management de la transition écologique.
Ah oui,
écologique.
Les Français disent un master.
Management. I'm sorry. et alors là, ça va être évidemment teinté d'une culture plus occidentale et non nord-américaine. Mais ce qui est ressorti, au-delà des chiffres qui ont déjà été cités, c'est qu'en Europe, notamment, il y a un gros souci de désirabilité. Pour moi, c'est vraiment le terme qui est ressorti. C'est que, oui, c'est désirable de s'habiller sur Shein, H&M, fast fashion, TikTok, etc. Mais comme ce que j'avais envie de montrer, c'est que c'est tout aussi désirable de reprendre ces codes-là pour les appliquer à de la consommation de seconde main, parce qu'en fait, j'ai découvert ça ici.
Voilà le sujet.
J'ai découvert ça ici, parce que bon, c'est la deuxième fois que je viens, et cette fois-ci, je suis là pour rester. Mais la première fois, j'ai vraiment découvert ce que c'était pour moi une vraie friperie. Mmh. Parce que le problème en Occident, c'est qu'aujourd'hui, une friperie, ça va être soit vintage, donc moi, payer 20-30 $ si je convertis un t-shirt en friperie, c'est pas la peine. Ou alors, au contraire, ça va juste être des gros bacs de vêtements où ça va être 50 cents la pièce. Mm-hmm. Mais comme c'est poussiéreux, c'est sale, c'est de mauvaise qualité. Mm-hmm. Il n'y avait pas comme cet entre-deux, comme Renaissance, Chénon, Village des Valeurs, même si je sais que ça, Village des Valeurs, c'est Walmart derrière. Mais comme... voilà, c'est... C'est ça. Mais comme...
On en apprend.
Il y a vraiment pas cette culture-là. Et en fait, c'est ce que j'ai fait une proposition d'une franchise pour mon mémoire de fin d'année qui reprend un peu ces codes de désirabilité. C'est-à-dire que ce qui est très important déjà aujourd'hui, ce qui est ressorti dans ma recherche, c'est que les gens veulent toucher le vêtement. On pourrait croire que c'est l'inverse parce que on commande sur Internet, tout est digital. Mais, et toute génération confondue, je précise, il y a cette envie de se reconnecter vraiment au textile et aussi, à ma plus grande surprise, d'avoir des conseils en boutique. Parce que très souvent, on a cette habitude, non, comme laissez-moi magasiner tranquille. Ben, en fait, les gens, dans le fond, aimeraient avoir, pas un personal shopper non plus, mais plus de conseils en boutique. Et je me dis, pourquoi ne pas ramener ces codes-là dans la consommation de seconde main, justement, et de tout simplement de la rendre désirable, comme c'est les géants, comme Zara.
Incroyable. Moi, là, je rentre dans une boutique, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas. Je suis complètement perdu. Fait que je sors avec rien parce que je suis confus puis frustré.
Oui, j'ai déjà été témoin.
Puis quand il y a les vendeurs, tu sais, on est allé magasiner ensemble, puis j'ai l'impression qu'ils veulent me vendre, puis ça me stresse. Je me ferme, je suis comme, nope, j'en veux pas.
Il n'y a pas de service, il sort. Il y a du service, il sort.
Mais pour rentrer dans des boutiques de vêtements, un bout, là, il y a une fine ligne là, entre genre, justement être ne pas être agaçante pour la personne puis la soutenir. Puis c'est aussi comme établir un lien de confiance avec cette personne-là. Bref, en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire là-dessus. Oui. Puis dans les Laurentides, lorsque j'avais 16 ans, au début, je voulais travailler en mode, il y a vraiment longtemps. J'ai trouvé une job dans une friperie justement qui faisait de la curation un petit peu de vêtements parce qu'il n'y en existe pas des friperies là, en dehors de. En tout cas, dans les Laurentides, c'est très rare. Là. Fait que, il y a quand même. On faisait ce choix-là, puis c'était intéressant de voir les gens, puis c'est abordable, c'était pas genre super, super cher, mais ça marchait pas, tu sais, cette friperie-là a fermé après 3 ans.
Ah ouais?
Ouais, mais après, il y a aussi un marché différent dans les Laurentides, une ville qui est majoritairement touristique, fait qu'on est principalement occupé l'été.
C'est quand ils viennent à Montréal,
ouais,
ils vont
chez Renaissance. Fait comme, il y a différentes choses qui jouent là-dedans, là, mais... Je trouve ça intéressant parce que je pense que le rôle d'un conseiller ou d'une conseillère à la vente dans des boutiques est vraiment important.
Puis, si je reprends la question de Louise, est-ce qu'on consomme trop de vêtements? Là? Et moi, je dirais que oui. Puis, on a les chiffres, c'est nouveau, là, mais il y a un article qui est sorti en 2023, si je ne me trompe pas, là, c'est un rapport, ça s'appelle Unfit, Unfair, Unfashionable. Puis, c'est un rapport, quand il est sorti, j'ai couru dans l'appartement, les bras en l'air, j'étais tellement contente de voir ça arriver. Enfin, des chiffres concrets qui nous disent combien on devrait consommer. Là. Mais en tant que Nord-Américain, là, s'il n'y a pas de changement dans nos pratiques de consommation, par exemple, si on consomme encore du neuf et que l'industrie ne change pas tout à fait, mais même si elle change là, un petit peu, même si on se met à recycler un petit peu plus les textiles et tout ça, là, le chiffre, c'est qu'il faudrait qu'on consomme 5 vêtements par année pour réussir à atteindre la cible de l'accord de Paris de 1,5 degrés.
D'achat.
Ouais. Donc, 5 vêtements par année qu'on achète pour s'assurer, en fait, de ne pas prendre une trop grande part de l'impact des changements climatiques.
On se donne ce défi-là, gang.
Seconde main compris?
Non, du neuf.
Neuf, OK.
Neuf.
Je vais peut-être faire friser les oreilles à Clément, mais non, c'est pas du tout mon genre. On parlait de 3 mois sans acheter de vêtements. Là, tu me dis 5 par année.
Non, mais là, neuf. Non, mais gars, ce qui te sauve, c'est neuf.
Oui, mais j'achète pas neuf. À la base, j'achète dans une friperie taille plus.
Donc, t'es correct. Pas pareil. C'est pas le même chiffre.
Alexis, tu termines avec ça?
En fait, si tout le monde achète 5 morceaux, tout va ralentir, donc il va y avoir moins de choses dans les friperies aussi. Donc, il faut penser à ça.
Il y a, il y a du stock. Il y a énormément de stock.
On exporte quelque chose comme, je ne sais pas si tu peux me dire, mais il me semble qu'on exporte environ 70% de tout ce qu'on donne au marché de seconde main.
Ça ça se retrouve en fait là, dans des dépotoirs au Chili, entre autres. Il y en a un qui est tellement gros que tu peux le voir de l'espace.
C'est un dépotoir à ciel ouvert. Ce n'est même pas un dépotoir. C'est juste qu'on ne sait plus où les mettre, les vêtements. Fait qu'on les drop en plein milieu du désert d'Atacama au Chili.
Dégueu!
Ça, c'est un exemple
On va se faire plaisir un petit peu, là. Oui, je me suis payé la traite, la boomer. J'ai mis une toune pour ma gang. Puis je pense qu'il y a plus que de monde que ça qui aime David Bowie, qui parlait de fashion. Mm. Puis là, ça va être Julien qui va nous parler de...
De sport!
Bonjour Julien!
Bonjour! Ces jours-ci, c'est la fin de la saison régulière de deux ligues. La première, c'est l'Association nationale de basketball, également appelée NBA, qui se termine le 14 avril et les séries éliminatoires débutent la semaine prochaine, le 20 avril. C'est donc vraiment bien. Malheureusement, la seule équipe canadienne, les Raptors de Toronto, est éliminée des séries éliminatoires. La seconde est la Ligue nationale de hockey, donc la LNH. Ces derniers matchs sont le 18 avril. Cependant, l'équipe montréalaise est également éliminée éliminatoire. Mais dans l'association de l'Est, la lutte est très chaude parmi 4 ou 5 équipes. Donc, je trouve ça très excitant. Bye! Merci beaucoup!
Cri Julien! Si vous saviez comme on est déchiré ici, on voudrait une demi-heure de plus pour jaser de tout ça. Parce qu'il y a tant de choses à dire. Parce qu'on a parlé de la culture qu'il faut soigner, mais on a parlé de la planète aussi qu'il faut essayer de...
Dans l'identité.
identités.
Des identités. Ah, de tout, de tout, de tout. Alors, c'est l'heure, c'est le temps, c'est le moment de vous dire merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup, Jean-Nicolas.
Merci, au revoir
merci,
tout le monde.
Merci, Guillaume.
Merci beaucoup.
Merci. Fiston Alexis.
Merci.
Merci Ariane. Merci. C'était dur, hein, Ariane?
Je me gère.
Oh mon Dieu, mon Dieu. Ben, merci à notre invité.
Merci à vous de m'avoir reçu.
C'est Ariane, tu reviens quand tu veux, puis on va essayer d'avoir plus de temps. Merci France.
Bienvenue, il y avait tant à dire.
Il y avait tant à dire. Et puis Cathy, comment t'as trouvé ça?
Et moi, là, sérieusement, j'ai tellement appris d'affaires, là, je vais tellement en discuter tantôt avec mes fils, vous n'avez pas d'idée.
Ben, c'est bon, ça. On vous invite à participer dimanche prochain. Là, je le dis, à tous les dimanches, c'est le bingo de CIBL. C'est 1,5, c'est important, vous allez dans les dépanneurs participants, vous voyez ça sur la page de CIBL, vous avez accès à cette liste-là. Et puis, ben, ça va aider, parce que la radio, ben, on veut qu'elle survive, puis on l'aime, notre radio de CIBL. Puis, n'oubliez pas de nous réécouter, comme je le disais, sur le réseau. Et puis, on vous souhaite une très belle fin de semaine. Et puis, ben, c'est tout. Puis, à la semaine prochaine, ça achève, là. Nous autres, on s'en va en vacances bientôt.
C'est la centième, la semaine prochaine.
C'est la centième. Wow. On va avoir... Wow. Ouais! On va avoir des pépites de la première jusqu'à... Bon, on mettra Dieu. Pas sans émission dans une émission, là. Oui, oui, les premiers qu'on fait. Oui, ça va être malaisant et amusant. On vous souhaite une très belle fin de semaine, parce que vous savez que moi, les week-ends, je suis pas forte là-dessus, mais les fins de semaine, j'adore ça. Ciao!
Bye! Bye.